et en général du mariage et du célibat. Et on avait beaucoup parlé de ça, on avait expliqué les différents endroits où la Bible enseigne sur le mariage et sur le célibat, et nous avions passé du temps à essayer d'expliquer que le mariage et le célibat ne sont pas deux ennemis, que le mariage et le célibat ne sont pas deux choses complètement opposées, ou alors il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, un qui a plus de valeur que l'autre. Dans la Bible, le mariage a toute sa valeur, le mariage est une règle donnée par Dieu, mais le célibat aussi a de la valeur. Et donc, on avait partagé sur ce sujet-là et on avait parlé des différentes conditions bibliques du mariage et du célibat aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Alors ici, il est écrit la communication dans la famille, mais en fait, la communication, c'est en général. Ce qui est assez particulier, c'est que le thème de la communication, c'est un thème qui est utile à tous, à tout le monde, en tout temps, en tous instants, puisque il ne faut pas être marié pour avoir besoin de communiquer. Il n'y a pas besoin même d'avoir nécessairement des enfants, d'avoir nécessairement des frères et sœurs. Nous communiquons tout le temps, sans cesse, avec d'autres. Et donc, c'est important que nous puissions connaître l'enseignement biblique vis-à-vis de l'enseignement, mais aussi les principes de sagesse qui peuvent nous aider à communiquer correctement. En fait, la communication, elle est à la base de toute la vie humaine. C'est elle qui est la clé à partir de laquelle l'humanité fonctionne. Et donc, quand on a la grâce de pouvoir s'arrêter quelques instants autour de ce genre de thème, c'est fantastique parce que ça nous permet parfois de nous remettre en question et de nous réorienter pour la suite. Donc, on peut aller à la diapositive suivante. Je ne sais plus dans quel ordre on va voir les choses. Ah oui, elle ne passe pas. Donc, premièrement, des constats, quelques constats, on va aller rapidement, hein, parce que je voudrais qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses aussi. Des constats. On ne peut que constater que, en termes de communication, les choses ne sont pas faciles. Toute personne qui a vécu en couple, en famille, avec des frères et sœurs, au travail, à l'église, ou quelle que soit la communauté humaine, sait que communiquer, ce n'est pas facile. On a déjà tous expérimenté des situations dans lesquelles on a dit quelque chose à quelqu'un qui a complètement déformé ce qu'on a dit et qui a dit « Ben oui, mais tu m'as dit ça. » Je dis « Ben non, j'ai jamais dit une chose pareille. » J'ai voulu dire quelque chose et la personne a compris autre chose. Donc, la première chose que l'on peut constater, c'est que la communication chez les humains n'est pas quelque chose de facile. Autant c'est essentiel, autant c'est compliqué, autant cet intérêt dans lequel nous ne sommes pas très habiles. Certaines personnes plus que d'autres, mais en général, même lorsque nous faisons un travail pour essayer de bien communiquer, il arrive encore que nous ayons des incompréhensions, des difficultés, et que nous ayons parfois des difficultés même à comprendre les autres, à comprendre ce qu'ils disent. Et donc, en particulier dans le couple, vous connaissez certainement ce livre écrit à la base par un monsieur qu'on appelle John Gray, qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Alors, c'est un, je ne sais plus si c'est un livre, mais en tout cas, ça a été donné sous une pièce de théâtre. C'est tout à fait grandiose, son travail, et on aime bien ça, parce que quelque part, ça nous parle d'une réalité qu'on a tous vécue un jour. C'est-à-dire, mais c'est quand même fou, comme un homme et une femme sont deux êtres humains, mais sont complètement différents dans leur manière d'agir, leur manière de penser, leur manière de concevoir la vie. Et quand on leur demande d'essayer de communiquer, bien évidemment c'est compliqué puisqu'ils sont deux êtres de deux planètes différentes. Alors c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière son livre, c'est de dire la femme vient d'une planète, l'homme d'une autre, deux planètes complètement différentes, ce sont des êtres qui n'ont pas la même essence. Et quelque part ça vient d'un constat humain de ces différences hommes-femmes. Mais quand on lit la Bible, en vérité l'homme et la femme ils viennent du même endroit. Hein, on dit, la Bible dit, il créa l'homme, homme et femme, il les créa. En d'autres termes, il n'a pas créé Adam sur une terre, Ève sur une autre, ils ont été créés ensemble. On va même dire que Ève a été tirée de la côte d'Adam. Donc, ils ne sont qu'une seule chose, en fait. Ils viennent du même endroit. Ils ont reçu le même enseignement. Et donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté de communication encore plus accrue du fait de cette différence homme-femme, quand on parle du couple. On sait, par exemple, que les hommes sont plus poussés à l'action, la compétence, le pouvoir. Les hommes, ils veulent avancer, ils veulent travailler. Tout ce qui compte, c'est qu'on avance et que les choses se passent bien. Les émotions, les sentiments, bon oui, d'accord, on peut les mettre de côté, mais on avance. Ils sont plus fonceurs. Le pouvoir, ils aiment bien le pouvoir, ils aiment bien la direction. Les femmes sont plus dans l'expression des émotions, dans la recherche des échanges, dans la créativité. Hein, une femme va réfléchir, va penser à l'esthétique. Hein, toutes les personnes qui sont mariées savent bien que, bon, le mari, la maison, s'il y a une table, s'il y a des chaises, s'il y a des assiettes pour manger, merci, au revoir. Et la femme, non, mais ce serait mieux qu'on mette la table là, c'est plus esthétique. Et bon, le mari essaye de se retenir, à un moment donné, il en a jusque-là, de tous ces trucs d'esthétique dont il n'a absolument rien à faire. Même dans l'habillement, le mari, tant qu'il n'est pas nu dans la rue, il est content. La femme dit, mais non, mais plutôt cette chemise-là, ça ne va pas ensemble. Voilà. Donc, on ne peut pas passer à côté que l'homme et la femme sont différents. On peut aller à la suivante. Et la conséquence, elle est que communiquer est une affaire difficile. C'est difficile de communiquer, d'autant plus que la violence, l'agressivité, la haine sont entrées dans le champ de la communication. C'est-à-dire que les êtres humains sont parfois violents dans leurs actes, ils frappent, ils volent, ils tuent, mais les êtres humains sont aussi parfois méchants en parole. L'agressivité, la haine, ce sont toutes des choses qui ne sont pas restées dans le champ de l'action. Dans la parole aussi, on peut manifester de la violence, de l'agressivité. Et donc, le péché, quelque part, a pris sa position, a pris domination aussi dans la communication. Si bien que lorsque nous communiquons, parfois nous en venons à mal communiquer, à insulter, à médire, dire du mal des autres, à calomnier, à blesser, voilà, c'est ça aussi la communication. Et d'ailleurs, on a chanté tout à l'heure pour guérir les cœurs, mais la plupart des blessures qu'on a dans le cœur, ce sont des blessures qui naissent de paroles. Ce sont rarement des blessures qui naissent d'une chose qu'on a vue, qu'on a observée, ou qu'on a vécue, mais même lorsque c'est une chose qu'on a vécue, souvent on se rappelle des paroles qu'on nous a dites. Parce que le problème des paroles, c'est qu'elles entrent dans les oreilles, mais elles descendent dans le cœur. Et donc, la communication, c'est quelque chose de tout à fait particulier. On peut aller à la suivante. Dans le couple, alors bien évidemment, on va passer quelques temps à parler du couple, mais la communication, vous comprendrez que c'est en général, mais on parlera quelques instants du couple. Dans le couple, la communication, c'est un moteur. C'est un moteur, les personnes mariées ont besoin de parler, elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'être avec l'autre, elles ont besoin de partager, et il y a même des couples qui prennent du temps chaque jour pour parler. C'est essentiel, hein, ça fait partie des choses qui font la bonne santé d'un couple, c'est de prendre le temps de parler. Prendre le temps de parler, ça ne veut pas dire regarder la télévision et répondre à... Elle me parle pendant 30 minutes et je lui réponds, ah oui, qu'est-ce que tu disais ? Oui, parce que, bon, voilà, et puis, non, c'est réellement être investi tous les deux dans un moment où on parle, on partage. Lorsque un jeune couple commence, on dit toujours qu'il y a un passage qui existe, c'est le passage du couple ou de l'autre idéalisé au passage de l'autre réel. C'est-à-dire qu'avant les fiançailles, ou même pendant les fiançailles, l'autre... Je ne l'aime pas en vérité. J'aime l'autre idéalisé. L'autre tel que je le conçois comme étant quelqu'un d'absolument idéal. Absolument parfait. Alors, j'exagère un peu, bien évidemment. On voit quelques-uns de ses défauts. Mais on s'en fiche. C'est rien. Donc, l'autre, il est bien comme ça. Et puis, avec les années, avec le temps, ça arrive... Ceux qui ont le plus de chance, ça arrive déjà aux fiançailles, ils se rendent compte que l'autre a quand même des défauts. Mais il y en a d'autres, ils sont dans le mariage, et c'est là qu'ils disent, ah, c'est pas vrai, il n'est pas parfait en fait. Ah ben non. Et donc, petit à petit, on découvre l'autre réel, l'autre tel qu'il est vraiment. pas l'autre dans mon imagination, mais l'autre tel qu'il est vraiment. Au début, le couple est fusionnel. Hein, on partage tout, on comprend tout de l'autre. Hein, quel que soit ce que l'autre dit, mais oui, je te comprends vraiment, je saisis ce que tu veux dire. Après quelques années, oui, j'ai compris, mais bon. Et donc, avec le temps, il y a une fracture qui se crée entre l'homme et la femme, qui fait que ben, il y a une différence qui s'installe, il y a un manque qui est là, et la communication est censée être le pont qui va résoudre ce problème, mais quand on s'y attelle pas, ben, ça ne va pas. Ça ne va pas, si bien que ben, voilà, même dans le monde, on voit des gens qui après, après un mois, deux mois, un an, disent bon, eh, oh, ça va, on arrête. Parce que voilà, la différence, elle est là, elle est palpable, on la vit chaque jour, et on n'a pas le pont pour réussir à se rééquilibrer. On peut aller à la suivante. Alors, premièrement, l'homme est un être parlant. Donc, on peut y aller, ça c'est juste une... l'homme est un être qui parle. J'ai... plusieurs travaux de philosophes, j'aimerais bien en parler, mais je ne vais pas en parler parce que sinon on va rester là toute la nuit. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Il y a deux philosophes, Aristote et Heidegger, qui ont parlé de ça, qui ont fait des livres là-dessus. Mais bon, soit. Quatre versets dans la Bible qui nous montrent comment est-ce que Dieu a donné à l'homme une vocation pour parler, pour communiquer. D'abord, Genèse 1, verset 26, dit, c'est Dieu qui parle, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » L'homme est créé pour ressembler à Dieu. Il possède en lui quelque chose qui le rattache à Dieu, qui fait de lui un être dont l'essence est Dieu. Ce n'est pas le cas des autres êtres vivants, ce n'est pas le cas des plantes, ce n'est pas le cas des rochers. L'homme est un être qui est investi de cette image divine en lui. Et dès lors qu'il est comme Dieu, eh bien, il a cette faculté d'entrer en relation avec les autres. Dieu entre en relation avec le monde. Depuis Abraham, il est entré en relation avec le monde, il a parlé au monde, il s'est adressé, il a cherché à avoir une alliance, une relation. Dès lors que l'homme a reçu cette image de Dieu en lui, il est devenu comme Dieu, un être relationnel. D'ailleurs, vous savez qu'on dit, par exemple, la personne du Saint-Esprit. On ne dit pas le Saint-Esprit, on ne dit pas la chose, on dit la personne du Saint-Esprit, parce que c'est une personne avec qui on peut entrer en relation. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un avec qui on peut entrer en relation. De la même manière, l'homme est un être divin qui a la capacité d'entrer en relation. Deuxièmement, Genèse 2, verset 18, nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui parle. » Dieu constate qu'il y a un manque chez l'homme, on en avait parlé la dernière fois, Lotov en hébreu, il y a un manque, il y a une incomplétude en l'homme. C'est un deuxième verset qui fonde la nécessité pour l'homme de vivre en relation. Dans ce cas-ci, on parle de couple, mais c'est en général. L'homme seul est incomplet, il lui manque quelque chose. Et donc l'homme a besoin d'être relié à autre chose qui comble son manque. C'est un besoin. Et c'est pour ça que naturellement, les êtres humains vont les uns vers les autres. On voit rarement des enfants à la crèche qui restent chacun dans leur côté. Vous laissez des enfants 10 minutes ensemble, des petits-enfants, mais ils vont en venir à s'approcher l'un de l'autre, même s'ils ne se connaissent pas, que ce soit pour se frapper, pour prendre le jouet de l'autre, mais naturellement, nous allons vers l'autre. Parce qu'il y a une nécessité de vivre en communauté. L'être humain a besoin de vivre en communauté. Platon disait « l'être humain est un homme politique ». L'être humain est politique. Politique, la cité, la ville. Donc, l'homme doit vivre dans une communauté, dans une société. Parce qu'il a la parole, l'homme doit vivre dans une communauté, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit l'église. L'homme a ce besoin, c'est un besoin essentiel. Et Genèse 2, verset 7, « Il lui insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Certaines versions traduisent en disant un être parlant, pour mettre un accent sur le fait que, oui, un être vivant, mais un être capable d'entrer en relation avec les autres. Alors, les animaux aussi entrent en relation avec les autres, puisqu'ils savent communiquer. Vous savez que les chiens peuvent communiquer entre eux, etc. Mais ils vont communiquer suivant un instinct. l'animal a un instinct qui lui permet de réagir comme si c'était un humain, mais il n'a pas de jugement propre, un jugement duquel il peut se détacher. C'est pour ça qu'on peut dompter un chien, faire en sorte qu'à chaque fois que je fais ceci, le chien va réagir toujours de la même manière. Chaque fois qu'il va avoir un intrus, il va aboyer. Donc il est réglé pour fonctionner d'une certaine manière, mais il ne s'est pas sorti de son programme. Alors à peu de choses près, bien évidemment, on se comprend. Hein. Tandis que l'homme, c'est un être qui a le logos, qui a le jugement, qui a la raison, qui a la capacité d'analyser, de ne pas être d'accord, de poser des jugements, de s'exprimer, de changer d'avis, de modifier, de réfléchir, de mettre en lien, de faire des nuances. Ça, c'est l'être humain. Et tout ça, il sait le verbaliser dans sa parole. Et ensuite, Genèse 2, verset 20, l'homme donna un nom à tous les animaux. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de donner un nom. Donc, la puissance de l'homme, c'est de nommer les choses. Et donc, ce sont quatre versets qui fondent la capacité ou la nécessité pour l'homme de communiquer. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'Aristote ou Platon ont inventé. C'est dans la Bible même, l'homme doit parler, l'homme doit communiquer, l'homme a besoin de communiquer. L'homme est incomplet lorsqu'il ne communique pas. Merci beaucoup. Dieu a donné l'autorité à l'homme pour régner aussi, pour régner sur la terre, sur les choses de ce monde. Et Dieu aussi a créé l'homme par sa parole. C'est par sa parole que Dieu a créé l'homme, que Dieu a créé le monde. Et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole, en fait, c'est réellement ce qui fait de nous des êtres divins, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu, si vous permettez que je le dise comme ça. C'est un outil de création, c'est puissant la parole. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans le monde. Les êtres humains, les politiciens dirigent le peuple par des discours, par la parole. Comment est-ce qu'on enseigne aux enfants? Par la parole. Comment est-ce qu'on donne cours? Par la parole. Comment est-ce qu'on communique entre nous? Par la parole. C'est tout le temps la parole qui revient. Elle est au centre des relations humaines. Merci beaucoup. Et donc, d'où l'importance de bien communiquer. Comme je l'ai dit au départ, si nous avons la grâce de nous arrêter quelques instants de notre vie pour savoir ou pour réfléchir à comment communiquer, nous gagnerons du temps. Nous gagnerons du temps parce que la plupart du temps, les gens s'arrêtent à un moment donné et disent « Ah mais oui, mais je ne me rendais pas compte que quand je parlais, ça faisait quelque chose aux autres. Hein, » vous avez des gens comme ça, il leur faut 15, 20 ans pour se rendre compte que toute parole qu'ils prononcent a un effet autour d'eux. Le problème, c'est que quand ils s'en rendent compte, le train, on ne sait pas le faire aller en arrière. Hein. Donc le train, s'il va jusque Namur, il va jusque Namur. Voilà. Le temps perdu, il est perdu. Et donc, nous avons tout intérêt à réfléchir à la communication. La communication, c'est quoi? D'abord, elle nous permet de construire des relations. Nous construisons des relations, puisqu'une relation, ça n'est pas comme ça. Une relation, ça se construit. La communication permet de nous rapprocher les uns les autres. D'avoir un contact. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on va vers lui. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Qu'aimes-tu à manger? Où voudrais-tu aller? Où vas-tu? On va, pour se rapprocher de quelqu'un, lui parler. Si vous êtes dans un endroit public, par exemple, dans une gare, ou dans un cinéma, ou dans une piscine, ou que sais-je, et que vous avez quelqu'un à côté de vous et que vous le regardez, à un moment donné, il va se demander qu'est-ce que vous avez. Si vous fixez quelqu'un comme ça, sans rien dire, la personne va dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Des hommes peuvent même vous frapper en disant, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, parce que quelque part, quand on veut, si on veut parler à un autre être humain, si on veut, disons, entrer en contact avec un autre être humain, on doit parler. On ne peut pas seulement regarder les gens, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Si vous arrivez devant quelqu'un et que vous voulez quelque chose et que vous ne dites rien, la personne ne comprend pas de quoi vous lui parlez. Et donc, si je suis dans une piscine et qu'il y a un monsieur à qui je veux poser une question, dire « Où est-ce que vous avez acheté votre maillot, monsieur ?» et que je le regarde comme ça, il ne comprendra jamais ma question. Je dois m'approcher de lui et je dois lui dire « Bonjour, monsieur, excusez-moi, votre maillot, il est beau, j'aimerais avoir le même. » Bon, n'allez pas poser des questions si ridicules aux gens à la piscine. Hein, bon, c'est bon. Mais soit, je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple d'ailleurs, c'est ridicule, mais bon, soit, j'ai besoin de soleil, c'est peut-être ça. Bon. Mais en tout cas, pour communiquer, la communication nous permet de nous rapprocher des autres. La communication nous permet d'échanger, c'est-à-dire que je donne quelque chose, je reçois quelque chose. Il y a certaines idées qu'on peut avoir qui seules n'ont pas de valeur. On dit toujours qu'il y a plus de choses dans deux têtes que dans une. Quand on est à deux, on a plus d'idées à partager. Et vous avez peut-être déjà fait des déménagements où il faut faire rentrer une commode par une petite porte. Vous êtes tout seul, vous essayez pendant 40 minutes de faire rentrer la commode, ça passe pas. Il y en a un autre qui arrive, la main dans les poches. Ben oui, ben il suffit de faire ça, 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 ça. Ah ben oui, j'ai pas pensé, ben voilà. C'est ça la communication, c'est que j'apprends quelque chose que je ne savais pas. La communication nous permet de découvrir l'autre. Je découvre qui est l'autre personne, qui es-tu, et de connaître. La communication nous permet de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre les actions de l'autre. Tant que l'autre agit mais ne dit rien, je peux toujours interpréter ce qu'il a fait de mille manières. À la seconde où la personne a parlé, je peux donner un sens à ce que la personne a fait. Hein, si quelqu'un rentre ici, pose un acte, ben on va tous le regarder et chacun d'entre nous, on pourra toujours dire ben, moi je pense qu'il a dit ça, moi je pense qu'il a fait ça. Rappelez-vous le texte de la Bible dans Jean 8 où Jésus est en train d'écrire au sol avec la femme adultère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On n'en sait rien. Alors, dans la tradition, il y a des gens qui ont dit, ben oui, mais il est en train d'écrire les péchés de chacun. Et puis, mais non, il est en train d'écrire ça. Parce qu'il ne parlait pas. Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose, mais ne parle pas, on ne comprend pas. Et donc, dès lors que je commence à parler, que nous commençons à parler, nous commençons à comprendre. Comprendre pourquoi tu te comportes comme ça. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu vois les choses comme ça? La communication nous permet de rentrer dans une intimité, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel on peut se connaître, mais vraiment de manière très proche. La communication nous permet d'élargir notre horizon, c'est-à-dire de sortir de ma petite bulle, de mon moi, de mes pensées, je découvre des choses. La communication nous permet de nous dévoiler. Je dis aux gens qui je suis. Et la communication nous permet de résoudre les conflits. C'est en parlant qu'on résout les conflits. Et donc la communication, je sais que je le répète depuis le début, mais c'est important, la communication c'est au centre de la vie des humains. C'est vraiment, il n'y a rien de plus essentiel que la communication. La communication, merci beaucoup, nous permet de construire de l'intimité dans la vie familiale, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie... Nous commençons à créer une intimité, un espace dans lequel les gens se sentent bien, peuvent être eux-mêmes, peuvent dire ce qu'ils pensent, peuvent se dévoiler. Rappelez-vous le texte de Genèse, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Avant le péché, l'homme et la femme étaient complètement dévoilés l'un devant l'autre, ils n'avaient pas honte. C'est ça en fait l'intimité. Alors bien évidemment c'est un état auquel on ne reviendra plus jamais. Les nudistes, aujourd'hui, il y a des nudistes, hein, vous savez que ça existe. C'est ça leur mentalité, c'est de se dire, ben, quelque part, pourquoi se cacher? Je montre celle que je suis. Mais après le péché a amené à ce que ben, voilà, la nudité doit être cachée. Mais en tout cas, sur le principe, l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte, ça veut dire qu'ils étaient dans une intimité, un espace dans lequel ils ne se cachaient rien, ils étaient nus l'un devant l'autre, ils avaient une acceptation complète de l'autre, sans besoin de restriction, sans besoin, une intimité parfaite, si on peut le dire comme ça. Alors une fois que le péché est arrivé, l'intimité est partie. Et donc il faut la reconstruire, et même quand on la reconstruit, on chute, et puis on se relève, et on n'arrive jamais parfois à avoir cette perfection, mais en tout cas on peut tendre à cette intimité vraiment construite. Construite, valable, qui dure dans les années et qui apporte à chacun. Mais donc l'intimité, c'est je peux être qui je veux, qui je suis. Hein? Et très souvent, les jeunes gens ou les personnes avant de se marier, dans les fiançailles, quand on fait les préparations au mariage avec elles, souvent elles disent, ben oui, avec lui je peux être qui je suis. Voilà, avec lui je peux être moi-même. Alors bon, bien évidemment, on sait tous que ça peut être bien à un moment donné, mais bon. C'est pas le gage de la réussite, mais en tout cas, c'est un besoin qu'on a. que la personne qui va partager ma vie pour toujours, ben, sache, je puisse être devant lui comme je pense, que je puisse dire mes petites folies, mes petites histoires, mes petits projets, sans me sentir mal à l'aise. Mais donc, que ce soit avec des enfants, avec les enfants, que ce soit avec des frères, des sœurs, les gens ont besoin de cette intimité, de se dire, je peux parler, je peux dire ce que je pense. Et donc, la famille est appelée à être un havre de paix où chacun peut être lui-même, peut s'épanouir, peut penser, peut s'exprimer, sans entrave et sans honte. Sans entrave et sans honte. On peut aller à la suivante. Et donc, dès lors, il y a plein de sortes de langages. On a parlé de la communication, mais il y a plein de manières de communiquer. Premièrement, on peut communiquer de manière non-verbale. Le non-verbal, quand quelqu'un parle et qu'on n'entend pas ce qu'il dit, on peut imaginer de quoi il parle. Le non-verbal, quand quelqu'un est fâché, ben on le voit sur son visage, quand quelqu'un est content, quand quelqu'un... voilà, on n'a pas besoin forcément que quelqu'un dise quelque chose pour imaginer, comme je disais tout à l'heure, je vais imaginer. Je ne sais pas exactement ce que la personne veut ou dit, mais je peux l'imaginer. Mais donc, on peut aussi communiquer de manière non-verbale. Donc le langage, c'est les mots pleins, c'est-à-dire les mots avec un sens. C'est les mots vides, les mots qui n'ont pas de sens aussi. Un enfant ne dit pas des mots pleins. Un bébé ne dit pas des mots pleins, il dit des mots vides. Il parle, il fait ba, be, bi, bo, il fait sortir des sons qui n'ont pas de sens, à nos yeux. Peut-être que lui, il veut dire quelque chose à l'enfant. L'enfant, il a une volonté, il parle. Pour nous, c'est un mot vide. Mais donc, c'est aussi une manière de communiquer de l'enfant. Les lieux, les moments, les silences, donc les silences parlent aussi. Les regards parlent. Les attitudes corporelles, les langages gestuels. Et, bien évidemment, la parole, c'est-à-dire la communication verbale. Le problème de la communication non-verbale, c'est qu'elle laisse la place à l'interprétation, comme je le disais. Voilà, je crois avoir compris ce que l'autre voulait dire, mais je ne le saurai jamais. Ou en tout cas, je ne le sais pas pour l'instant. Il y a toujours ce petit doute. Mais donc, ça, c'est une diversité de manières de communiquer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tous passer du temps à vérifier notre manière de communiquer. C'est-à-dire que je peux très bien être quelqu'un qui communique très bien en parole, mais avoir toujours un faciès qui trompe. Il y a des gens qui sont très contents, ils ont toujours les yeux froncés, enfin le visage fermé. Non, mais je suis très content, tout va bien. Ah oui, mais bon, voilà. Et donc, ça fait partie de toutes les choses par lesquelles nous communiquons aux autres. Quelqu'un qui fronce tout le temps les yeux, on n'a pas envie de lui parler, on ne sait pas, on dit, mais si je lui parle, qu'est-ce qu'il va dire, il va me frapper, il va s'énerver ou quoi. Et donc, la communication, ce n'est pas seulement ce que je dis, ce que je ne dis pas, il faut regarder à tout. Si je veux bien communiquer, si je veux que les autres communiquent bien avec moi, je dois regarder à tout ça aussi. Au silence, il y a des personnes dans les maisons qui peuvent parfois, sans raison, être silencieuses, ne rien dire. La personne n'est pas fâchée, elle n'est pas triste, elle a juste pas envie de parler. Mais tous les autres à côté se disent, puisqu'ils parlent tous les autres jours de la semaine et qu'aujourd'hui ils ne parlent pas, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est qu'il est fâché, c'est qu'il est triste, c'est qu'il a fait une bêtise, c'est qu'il est arrivé une catastrophe, c'est que, alors qu'il n'y a rien. Et donc le silence aussi parle, malheureusement. Et nous devons même veiller à nos silences. Moi, je me rappelle d'une sœur qui avait fait quelque chose de très bien. Elle avait fait un jeûne de la parole. C'est une bonne chose à faire, parce qu'on parle tellement, on dit tellement de bêtises, parfois... Tout comme on peut jeûner avec son ventre, dire voilà, je passe une journée où je ne mange pas. Elle avait fait un jeûne de la parole. Elle a dit, un jour où je ne parle pas. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas pensé à nous le dire. Et qu'elle arrivait à la gape de l'église avec son jeûne de la parole. Et alors, à un moment donné, bon, moi j'étais assez incisif. Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, finalement, forcément, elle a craqué. Comment est-ce aussi... Ah, ça c'est évident, avec d'autres êtres humains, si vous ne parlez pas, à un moment donné, vous avez l'air stupide, hein, vous avez l'air... bon, donc voilà. Mais donc ça veut dire que même si j'ai besoin d'un temps de silence, il faut que je le dise aux autres. Si j'ai besoin de me taire pendant une journée, de dire je dois me concentrer sur quelque chose, il faut que je dise aux autres, aujourd'hui je ne vais pas parler parce que j'ai besoin de me concentrer. Mais si tu ne dis rien, il y a toujours ce doute qui plane. Et vous savez que le malentendu, le problème, c'est que le malentendu, il ouvre la porte de l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, il y a tout, hein. L'imaginaire, c'est un endroit divers et varié où on peut tout trouver. Alors, j'ai amené une petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. Si elle ne marche pas, c'est pas grave. On continuera sans. C'est vraiment juste pour illustrer, mais c'est pas absolument essentiel. J'aurais fait la même chose, c'est fait en plus. Alors, ça s'appelle l'expérience du visage impassible. Voilà. Donc ça, c'est le professeur qui parle. Lui, il n'a rien d'intéressant à faire. Alors, je vais vous laisser la regarder sans... Je ne sais pas s'il y aura du son, mais en tout cas, je vais vous laisser la regarder sans rien dire.
Comme ça, babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still phase experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
I'm like a girl.
Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points.
Yeah.
The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad.
Donc ça s'appelle l'expérience du visage impassible. Alors je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passait dans l'expérience. Bon, il ne faut pas essayer de comprendre ce que le gars dit en anglais, hein. C'est pas l'objectif. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est une vidéo qui parle clairement. Qui parle clairement, qui est très claire. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'ils font une expérience, le bébé et sa maman... Le bébé est là en train de parler, de jouer, de montrer et tout ça. Et puis, à un moment donné, la maman au début réagit, elle rigole, elle parle avec lui, elle le touche et tout ça. Et puis, à un moment donné, elle arrête. Son visage est impassible. Elle le regarde comme ça sans rien dire, sans rien faire. Et vous voyez que dès l'instant où la maman commence à avoir un visage impassible... L'enfant, au début, essaie d'attirer son attention. Il pointe, il crie, il essaie. Et puis, il essaie, à un moment donné, il n'arrive pas, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, il crie même, dans tous les sens, parce que sa maman ne réagit pas à ce qu'il fait. Donc, c'est pour montrer que, quelque part, c'est essentiel, hein, la communication. Et, en fait, cette vidéo-là, on l'utilise quand on parle aux gens de ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Donc les troubles de l'attachement, pour faire méga résumé, c'est quand un enfant, dans son enfance, a eu des difficultés de relation avec un de ses parents, souvent avec sa mère, et puis que finalement, il en développe toutes sortes de symptômes dans sa vie. C'est vraiment, quand je le dis, c'est vraiment brossé trop large. Hein. Scientifiquement, c'est pas juste. Mais en tout cas, pour que vous compreniez, il y a un attachement qui a été difficile dans la jeunesse, et puis finalement, l'enfant devient... commence à avoir des difficultés à rentrer en relation avec les autres. Et ça peut amener beaucoup de séquelles. Hein. Les troubles de l'attachement, c'est pas seulement simplement le fait de ne pas bien communiquer, c'est vraiment la personne peut être profondément affectée de ça, du fait de ne pas avoir assez de communication. Deuxièmement, vous connaissez peut-être l'expérience de l'empereur Frédéric II, dont on parle souvent. C'est simplement un empereur qui voulait... voir, il avait mis des enfants dans une pièce et il voulait voir quelle langue les enfants parleraient naturellement, sans qu'on ne leur dise rien. Donc on ne leur parle aucune langue. Donc les enfants sont dans une pièce, on leur donne de la nourriture, de la boisson, on s'occupe d'eux, on change leur langue, tout ce qu'il faut. Simplement, on ne leur parle pas. Juste pour voir quelle est la langue naturelle qu'ils vont développer. Ça, c'était les idées des empereurs avant. Voilà. Et alors, il veut voir quelle est la langue naturelle que les enfants vont développer. Et puis, il va se rendre compte que sans influence extérieure, c'est-à-dire sans parole aux enfants et sans manifestation d'affection, parce que l'affection, ça décide de parler un peu, donc sans parole, sans manifestation d'affection, ben, les enfants vont commencer à mourir les uns après les autres. Alors qu'ils ont de la nourriture, qu'ils ont de la boisson, qu'ils sont changés, qu'ils sont tout ce qu'on veut, le fait que les enfants n'aient pas la communication n'est pas d'expression d'amour, eh bien ces enfants-là sont morts les uns après les autres. Donc c'est ça, hein, la vérité de la communication et de l'expression de l'amour. C'est essentiel à l'être humain. Hein. Un être humain qui soit n'en a pas eu, soit a eu un manque, devient complètement dysfonctionnel. Après, dans sa vie, il n'est pas normal. Enfin, on se comprend. Et donc, ça c'est l'importance de la communication. La communication est un facteur qui peut vraiment développer nos relations. Bien communiquer, ça implique de créer un climat de confiance. C'est-à-dire que ça nécessite que les gens puissent parler en sachant qu'on ne va pas être jugé, qu'on ne va pas être calomnié ou quoi. Et donc, ça nécessite qu'on s'investisse dans les membres de la famille, qu'on prenne du temps, qu'on s'implique, qu'on... Et donc la communication affective est essentielle au développement de la relation du couple. Pour le couple aussi, c'est essentiel de communiquer. On peut aller à la suivante. Alors, les langages de l'amour. Alors rapidement, pour ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que dans la Bible, l'amour est un commandement. Dans la Bible, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un sentiment. C'est quelque chose qu'on ressent pour quelqu'un, mais c'est avant tout un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est pas si tu le sens, si tu as envie, si dans ton cœur, c'est tu aimeras. C'est un ordre. Et donc l'amour, c'est quelque chose dans la Bible d'actif, de volontaire, d'engagé, d'impliqué. C'est une décision, l'amour. Je décide d'aimer. Et donc certains pasteurs disent à la cérémonie de mariage, ne venez pas commencer dans vos vœux à vous dire « je t'aime ». Ça, c'est hors de question, vous oubliez ça. À la cérémonie de mariage, on ne dit pas « je t'aime ». On dit « je décide de t'aimer aujourd'hui ». À partir d'aujourd'hui, je t'aimerai. Je m'engage à t'aimer. Bon, soit, mais c'est juste pour montrer l'importance de dire « ne croyez pas que c'est acquis ». Ne venez pas en disant « ben oui, je t'aime ». Ah oui, ben bon, tu l'aimes aujourd'hui et demain et dans 10 ans et dans 20 ans. Voilà. Donc, je décide d'aimer. Ça, c'est l'amour biblique. C'est un engagement de tout notre être. C'est une décision, c'est une mise en œuvre de tout notre être. Je décide d'aimer. Et ça, c'est essentiel, c'est une bêtise. Mais bien évidemment, quand on imagine que l'amour, sentiment, va porter toute notre existence, toute notre couple, toute notre famille, bien évidemment, nous nous leurrons. Bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, ça va suffire, mais... devant certaines difficultés, devant certains défauts de l'autre, devant certaines paroles, devant certaines complications, ça ne suffit plus à un moment donné, ce sentiment-là, il s'envole. Tandis qu'une décision personnelle, engagée, concrète, ça ne s'envole pas. Ce que j'ai décidé de faire, je vais le faire. La plupart d'entre vous, vous avez signé des papiers devant un monsieur qu'on appelle un notaire pour acheter une maison et vous êtes engagé à payer chaque mois une certaine somme. Il n'y a personne qui se dit « Oh non, je n'ai pas envie ce mois-ci, je ne vais pas payer. » Oui, ben, un mois, deux mois, on vient chercher vos meubles et tout ça, au revoir et merci. Donc, bien évidemment, quand je m'engage pour 25 ans à acheter une maison, ben, je vais payer. Parce que sinon, voilà. Donc, c'est une décision. Là, la différence. On peut aller à la suivante. C'était juste un rappel. Alors, encore une fois, pourquoi exprimer l'amour? Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est très mauvais de garder ses sentiments pour soi, d'abord. Ça nous étouffe. Que ce soit des sentiments positifs, l'amour que j'ai pour quelqu'un, que ce soit des sentiments négatifs, l'amertume, la souffrance, la blessure, c'est très mauvais de garder ses sentiments pour soi. Ça nous consume, ça nous fait du mal. Deuxièmement, parce que les autres avec qui nous vivons ont besoin de savoir qu'on les aime. Alors, on en a parlé avec les bébés, mais c'est aussi vrai pour les adultes. Alors, plus on est adulte, plus on grandit, moins on prend conscience du fait qu'on a besoin d'être aimé, ou du moins on le dit de moins en moins, mais le besoin reste là. On a besoin d'être aimé. Et la privation d'amour a des mauvaises conséquences sur les êtres humains. Et ensuite, la communication permet de faire évoluer la relation. Sans communication, le potentiel d'intimité est étouffé. Et donc, nos relations ont besoin d'évoluer. En fonction des situations de la vie, comme on dit, des saisons de la vie, nos relations doivent changer, doivent monter. Ce que les personnes qui sont mariées vivent quand elles sont fiancées, et ce qu'elles vont vivre quand elles auront 5 enfants, ça n'a rien à voir. Quand on est fiancé, on n'a pas de soucis, on pense à rien. On pense à part à l'autre, à part à l'amour qu'on a pour l'autre, on ne pense à rien d'autre. Quand on a un enfant, mais il tombe malade, il faut aller à l'hôpital, il faut le changer, et puis deux enfants, il faut les inscrire à l'école. Les soucis commencent à augmenter. Et toute cette charge de travail, de soucis, nécessite que la relation augmente, se restructure, se fortifie, sans parler des épreuves de la vie. Parce que si tout allait toujours normalement, ce serait encore tranquille. Mais il y a des épreuves qui viennent, des difficultés qui viennent. Et donc, cette relation-là doit évoluer, elle doit surmonter. Et pour surmonter, elle a besoin d'être arrosée. Elle a besoin de communication, elle a besoin d'amour pour aller de l'avant. On peut aller à la suivante. Alors, un monsieur très très célèbre qui s'appelle Gary Chapman a défini 5 langages de l'amour. Alors, il faut savoir que Gary Chapman, c'est un chrétien, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans les bacheliers en conseiller conjugal et familial, donc les gens qui on enseigne ces théories à lui, donc c'est pas quelqu'un qui a eu un impact seulement chez les chrétiens. Dans la plupart des formations que vous allez voir, on prend ces 5 langages de l'amour, on retire tous les versets, et Dieu et machin, et puis on garde les langages et on enseigne ça. Donc c'est pas rien. C'est un chrétien qui a vraiment impacté le monde aussi. Premièrement, les paroles valorisantes. Ça, c'est un langage de l'amour. Dire des paroles qui manifestent de la valeur à l'autre. Je t'aime, c'est bien ce que tu as fait. Je suis content, je suis fier de toi. Va plus loin, vas-y, je crois en toi. Merci. Vous savez qu'il y a des hommes, et c'est très bien, qui à chaque repas disent merci à leur femme. Ça existe, ça. Et chaque fois qu'il a terminé de manger, il dit merci. C'est une manière de valoriser le travail. Elle a passé 4 heures à faire ses patates qu'elle a sorties, bazar. Merci. C'est tout ça, des paroles qui valorisent l'autre. Alors bien évidemment, les paroles valorisantes, ça nécessite qu'on ait quelque chose à valoriser chez l'autre. En d'autres termes, il faut prendre le temps et l'énergie pour voir ce qui est positif chez l'autre. Sinon, on n'a jamais envie de dire une parole valorisante. Si je ne vois que le fait qu'il n'a pas refermé le dentifrice, qu'il a mis de l'eau sur la poignée, que la voiture est mal garée pour les femmes, finalement, à la fin, n'allez pas dire que c'est pas vrai. Si je ne vois que le négatif, je n'aurai jamais de paroles valorisantes à dire. Donc, les paroles valorisantes, ça implique qu'au jour le jour, nous nous concentrions sur le positif. Sans fermer les yeux sur le négatif, il est là. Il ne faut pas être dans les nuages. Mais en tout cas, le positif doit avoir une valeur spéciale pour nous, ce qui est bien fait. Et d'ailleurs, parfois, quand on fait un bilan de notre vie et qu'on regarde tout ce que l'autre, qu'on soit notre conjoint, notre enfant, notre parent, a bien fait, en finalité, on se dit, c'est pas pour deux, trois petits bazars qu'on va chicaner. Quand un enfant qui arrive à l'âge adulte, qui a 20 ans, qui a 25 ans, fait un retour, un bilan sur comment ses parents l'ont éduqué, il dit, oui, d'accord, ce jour-là, il s'est peut-être un peu énervé, ce jour-là, il m'a énervé, mais en gros, mes parents, c'est quand même des super-héros. Donc, en finalité, quand on s'arrête, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, mais en généralement, quand on réfléchit à nos parents, à notre conjoint, et qu'on s'arrête, on se dit, ben oui, je chicane, je suis fâché, mais en gros, j'ai quand même de la chance. Et donc, c'est nécessaire. Pour valoriser, il faut prendre ce temps de dire, ben oui, oui, d'accord, t'as des défauts, t'es pas parfait, tu m'énerves, mais globalement, si je dois le dire comme ça, c'est bien. Et les paroles valorisantes, il faut les dire. Alors bien évidemment, quand on n'en a jamais eu, on a du mal à en dire. Et ça demande une relation d'aide. Beaucoup de gens continuent leur vie comme ça. Je ne sais pas dire à mon mari que je l'aime, ou à ma femme que je l'aime, mais c'est normal. Je ne lui ai plus dit depuis 25 ans, mais c'est normal. Et alors après, on dit, oui, mais il faut... Oui, mais voilà, ce sont des situations qui ne sont pas normales. Alors, on peut dire je t'aime, on peut dire d'autres choses. Je n'ai pas dit que c'est l'expression je t'aime, mais en tout cas, on doit pouvoir valoriser et manifester son amour à l'autre. Quand on n'en a pas eu, il y a des parents qui ont tout fait pour leurs enfants, tout, mais qui simplement n'ont jamais trouvé utile de faire des câlins, de dire je t'aime, de dire c'est bien. C'est parfois des cultures, c'est parfois des mentalités, c'est parfois des périodes, pendant les guerres, pendant des périodes difficiles comme ça. Les parents n'avaient pas la tête à ça ou ne l'ont pas fait. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui sont adultes et qui n'ont jamais entendu « je t'aime ». Voilà. Et donc, ça demande qu'on puisse avoir une relation d'aide, avoir des temps de prière, avoir des temps de réflexion, on prie, on cherche la face de Dieu pour être capable de réexprimer de l'amour. Il y a des relations qui ne savent pas évoluer sans cette ouverture-là. Tant qu'on n'arrive pas à l'exprimer, les choses vont rester au point mort. Et donc, c'est important. Deuxièmement, les temps de qualité. Les temps de qualité, c'est-à-dire passer du temps avec les personnes qu'on aime, aller en vacances, aller au bois, manger ensemble, ce sont des bêtes choses, mais voilà qu'une famille qui mange ensemble a l'occasion de partager, de parler, de penser, de raconter la journée. Les moments de qualité passés avec l'autre, c'est un langage d'amour. Les cadeaux, bien évidemment, les cadeaux sont des langages d'amour. Alors, on sait tous ici que les cadeaux sont des langages d'amour, pas tellement à cause de leur prix, mais à cause du fait qu'ils soient bien adaptés ou pas. Qui correspondent aux besoins et aux désirs de la personne à qui on fait un cadeau. Parce que si je fais un cadeau même de 100 000 euros, si j'offre à une dame une chaîne IFI ou alors un kit pour tuner sa voiture, elle va dire, oui, que tu veux que je fasse avec ça, voilà. Donc le cadeau, c'est pas seulement le fait d'avoir mis de l'argent. C'est le fait d'avoir réfléchi, d'avoir passé du temps à réfléchir, qu'est-ce qui va faire plaisir à la personne, ou de quoi est-ce qu'elle a besoin. Il y a des gens qui font des cadeaux pour faire plaisir, je t'offre un téléphone, un iPad, et puis il y a des gens qui font des cadeaux pour que ce soit utile, je t'offre une machine à laver, je t'offre un frigo, je t'offre... Voilà. Mais donc, les cadeaux aussi, c'est un langage d'amour. Les services rendus, rendre des services à quelqu'un, masser quelqu'un, l'aider, faire la cuisine alors qu'on ne la fait pas d'habitude. Il y a tellement de choses, des services rendus, on sait tout ce que c'est, rendre du service à l'autre. Et ensuite, le toucher physique, bien évidemment. Avant la sexualité, c'est d'abord le toucher physique. Donc, quand on dit toucher physique, on ne parle pas encore de sexualité, on parle simplement du fait d'avoir des touchés affectueux entre personnes au cours de la journée sans raison spécifique. Et ça, c'est important, puisqu'on se retrouve souvent, et alors je ne le dis pas de manière insultante, mais on se retrouve souvent avec des hommes qui ne savent pas manifester de l'affection physique à leur épouse autrement ou dans d'autres endroits que dans la sexualité. Et donc ça arrive à ce moment-là, oups, mais ça, y a, pendant la journée, on n'a rien du tout. Alors c'est un problème, bien évidemment, parce que c'est un besoin dont on a, c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. De toute manière, à tout instant, le toucher physique, on en a besoin. D'ailleurs, un enfant, on le prend dans les bras, on lui fait des bisous, on le caresse, il en a besoin. Et en vérité, les adultes en ont aussi besoin. C'est juste qu'avec le temps, parfois, quand on n'en a pas, on se dit, bon, bah allez, hein, on va vivre avec. Mais bon. On peut aller à la suivante. Alors, notons simplement que la sexualité est un mode de communication aussi. La sexualité, c'est aussi un moyen par lequel on parle, par lequel on s'exprime, par lequel on communique. Là, c'est uniquement avec son conjoint, bien évidemment. Et l'humour est aussi un mode de communication. On l'oublie souvent, mais voilà, ça fait partie. Le manque d'humour, ça fait naître la routine, hein, dans un couple, dans une relation. Quand on peut rigoler de rien, on peut jamais faire de blagues, on a un peu de folie, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Et c'est quelque chose de biblique, hein, ce que je dis là, puisque vous savez que Isaac et Rebecca, dont on nous parle dans Genèse 24, quand le pharaon, je ne sais plus si c'est le pharaon qu'on appelle celui-là, mais en tout cas, il va dire non, ce n'est pas ma sœur, mais il va se rendre compte que c'est sa sœur parce qu'il s'amusait, il rigolait. À sa fenêtre. Je retrouverai le verset, mais en tout cas, un verset qui nous dit qu'ils étaient dehors, à l'extérieur, en train de rigoler, en train de s'amuser, et qu'il dit, ben non, c'est ma sœur. Mais que finalement, on se rend compte, ben non, c'est des maris et femmes. Donc, ils avaient de la joie d'être ensemble, ils blaguaient, ils se taquinaient. Voilà. Ça fait partie des choses, malheureusement, qui font, qui donnent on dit du piment, mais c'est vrai. On a tous besoin de piment dans notre vie, vous savez. Avoir une vie monotone, ça fait plaisir à personne, hein. Une petite blague par là, une petite plaisanterie par ici, ça fait du bien. Et donc, soyons des gens qui ont de l'humour, un bon humour, des bonnes idées, des bonnes choses à dire. C'est puissant l'humour. Hein. C'est pas quelque chose de. Si on savait gérer la puissance de l'humour, l'humour, ça peut donner. Quelqu'un peut être en train de pleurer et du jour, de la seconde où on dit une blague, être en train de rigoler. Donc, utilisons aussi l'humour. La suivante. Alors, comment communiquer en pratique? Je vais aller très vite parce que l'heure avance. Bon, ça, c'est pas important. La communication non violente, c'est un psychologue qui, à un moment donné, a mis en place une technique qu'on appelle la communication non violente. Il s'appelle Rosenberg. Et simplement, il a mis en place quelques principes pour être capable de parler sans agresser. De parler d'avoir des discussions difficiles, par exemple des discussions conflictuelles, mais sans donner l'impression à l'autre qu'on l'agresse, qu'on lui veut du mal, simplement une relation, une discussion, une communication affectueuse, respectueuse, confiante. Donc voilà, on peut aller à la suivante. Alors, les étapes pour faire simple, pour bien communiquer, il faut être capable d'observer une situation de manière objective. C'est-à-dire, je vais d'abord parler de la situation telle qu'elle est, telle que je l'ai vue. Aux examens à la police, quand on les passe, le premier examen, c'est un examen de rédaction, puisqu'un policier passe du temps à rédiger. Hein. C'est presque ça qui est fait toute la journée. Et alors, il y a une partie à l'examen, c'est éliminatoire, où vous avez une vidéo et vous devez rédiger ce que vous avez vu dans la vidéo. Vous devez simplement faire un résumé. Et à un moment donné, vous voyez le gars qui prend un sachet avec un truc blanc, une poudre blanche à l'intérieur, qui la met dans un sac et qui s'en va. Et alors, celui qui n'est pas très fuite-fuite, il met « Monsieur prend un sac de drogue et le met dans un sac de sport. » Ben non, c'est raté. Tu n'en sais rien. Tu n'as pas vu ce qu'il y avait dans le sac. Tu as juste vu un sac avec de la poudre blanche. Ça, c'est le récit objectif du policier. Le policier doit pouvoir expliquer une chose telle qu'elle est. Sans dire, ben oui, j'ai l'impression qu'il y avait ça dedans. Dans le procès verbal, on dit ce qu'on a vu. Et donc, le problème dans nos relations, c'est que parfois, on est incapable de faire ça. De dire ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. on ajoute tout de suite la subjectivité. Et je crois que tu as dit ça pour ça, tu as fait ça pour ça, c'était ton objectif, ton intention n'était pas bien, machin. Voilà ce qui s'est passé. Premièrement, observer la situation de manière objective. Ensuite, nommer la situation, le sentiment qu'elle éveille. Et voilà, il s'est passé ça, et moi, ça m'a donné ce sentiment-là. Tu as retiré la chaise avant que je m'asseye, ça m'a donné le sentiment que tu voulais que je tombe. Voilà, c'est pas très gentil de faire ça. Ça, c'est pas... c'est pas un bon humour, quoi. Bon, mais... À partir de ce qu'on a, exprimé comme sentiment, c'est de donner le besoin qu'on a vis-à-vis de ça. Je vais prendre un autre exemple, parce que celui-là, il est encore stupide, mais si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui... je vais vous donner l'exemple du dentifrice qui n'est pas fermé, et ça sèche tous les matins, il faut... Bon, voilà. Voilà. Tous les matins... Déjà, l'objectivité, c'est premièrement, c'est de dire... Si jamais il a oublié de refermer le dentifrice lundi et mercredi, je ne peux pas aller lui dire tous les matins tu oublies de retirer, de remettre le bouchon dentifrice. Lundi et mercredi, c'est deux jours sur la semaine. Si je lui dis tous les matins, tout de suite il va réagir en disant ben non, non, c'est pas vrai puisqu'hier je ne l'ai pas fait. Alors vous allez me dire c'est ridicule, mais c'est important. En exagérant les choses, on rend difficile les relations. Toujours exagéré, tu prends jamais soin de moi, tu penses jamais à moi, tu viens jamais me rechercher. Ça peut rendre fou quelqu'un parce que je dis, attends, je l'ai fait 28 fois, 28 jours sur 30, il y en a deux où je ne l'ai pas fait et c'est jamais. Donc, observer la situation, c'est d'abord être juste, ne pas exagérer la chose. Et donc, voilà, tu n'as pas refermé le dentifrice, ça c'est un fait, lundi et mercredi, tu ne l'as pas refermé. Le sentiment que ça m'éveille, j'ai le sentiment que tu ne prends pas attention à ce que je fais, aux soins que je prends à la maison, à mon nettoyage. Le besoin que j'ai par ça, j'ai besoin que tu manifestes, que tu me montres, que tu respectes mon travail. Ou alors que tu es rentré avec tes chaussures sales dans la maison, j'ai besoin que tu me montres, que tu te rends compte, que je nettoie, que j'y passe du temps, que c'est compliqué, que c'est fatigant, que je le fais après le travail. J'ai besoin de ça. J'exprime le sentiment que ça fait naître. Et ensuite, je le formule d'une manière concrète en disant, ben, concrètement, j'aimerais bien que tu retires tes chaussures avant de rentrer dans la maison. J'aimerais bien que tu fermes le bouchon du dentifrice. Voilà. Ça, c'est ça peut paraître ridicule, mais aborder un sujet difficile de cette manière-là, ça évite l'affrontement. Parce que c'est l'affrontement qui rend les relations difficiles. C'est d'en arriver à un moment donné où on s'affronte, où on est l'un contre l'autre. Alors que normalement, on doit juste échanger, se parler, communiquer. On peut aller à la suite. Alors, pour faire rapide, parce que comme ça vous aurez le temps de poser des questions si vous le souhaitez, d'autres principes d'une bonne communication, il faut parler en jeu. Alors ça on dit toujours, le tu est accusateur. Quand vous parlez à quelqu'un en tu, vous l'accusez. Tu ne fais jamais ça, tu n'as pas venu, tu as oublié, voilà, dès que tu me dis tu, je me sens pris, comme font les boxeurs. Je me sens agrippé, pris à partie, tu, je n'apprécie pas, je ne pense pas, je ne crois pas. C'est bien aussi de parler en son propre nom. Ça énerve parfois quelqu'un quand vous parlez toujours, oui, mais tu fais ça pour ça et tu n'y penses pas et tu... Je, voilà ce que je pense. Ensuite, on ne dit pas on n'utilise pas on, parce que à l'école, on dit toujours, on est un pronom imbécile qui définit celui qui l'emploie. Mais en tout cas, on ne sait jamais de quoi on parle. Oui, mais on m'a dit, oui, mais on dit toujours, oui, mais on... Voilà, on, c'est personne, on ne sait pas de qui on parle, c'est pas clair, mais parler en jeu, voilà. Faire des demandes claires. Donc, je ne vais pas, ou quelqu'un ne va pas rentrer chez lui au soir en disant, oh là là, ce serait bien si quelqu'un sortait les poubelles. Ah, ce serait vraiment un truc agréable, hein, ça, franchement... Oh là là, si la poubelle était sortie, on pourrait passer une bonne soirée. Moi, j'aimerais bien quelqu'un... Voilà. Ça, c'est ce que parfois on fait. Genre une parole lâchée comme ça aux oiseaux, peut-être, aux mouches qui sont dans la maison. Alors que ce que tu aimerais, c'est qu'un tel enfant, ton aîné, aille sortir les poubelles. Il faut faire des demandes claires, il faut être clair. Parce qu'encore une fois, dans la communication, quand c'est pas clair, on comprend pas. Et on le sait tous, hein, mais dans la vie de tous les jours, on néglige. On dit des trucs comme ça en espérant que quelqu'un va deviner à qui on s'adresse, pourquoi est-ce qu'on le dit, comment ça doit être fait. Et on va parfois demander quelque chose à quelqu'un de manière claire, mais sans demander comment on voudrait que ce soit fait. Hein, tu vas me rendre un service, ou j'aimerais bien que tu sortes les poubelles. Ben, moi, c'est comme ça, c'est l'histoire classique, hein, vous la connaissez tous, de la femme qui dit à son mari, va voir, va chercher le pot de bonbons qui est sur la commode dans ma chambre. Le mari arrive sur la commode et dit, ben non, il n'y a pas de pot de bonbons sur la commode, je suis désolé, il n'y a rien. Il redescend en bas et puis elle lui crie dessus, ben oui, mais il faut regarder à côté, j'ai dit sur la commode, mais c'était peut-être à côté, peut-être sur le lit, il faut regarder ailleurs, hein, oui, mais sauf, et un petit peu d'initiative hein, quand même, tu ne penses jamais à rien, voilà. Le mari, il vient de Vénus, ben, il dit, elle m'a dit sur la commode, je cherche sur la commode, il est, voilà. Après ça, moi, je ne fais rien d'autre. Et puis, elle lui dit, mais non, mais regarde à côté, voilà. Mais c'est pour dire que, voilà, si je veux que le sac poubelle soit fermé de cette manière-là, je dois le demander. Il ne peut pas le comprendre tout seul. C'est, il n'est pas devin pour savoir comment on ferme un sac poubelle. Il faut le demander. Oui, non, mais... ce sont des exemples ridicules, hein, je l'ai dit. Mais c'est pour ne pas prendre des choses un peu trop. Mais bon, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Hein. C'est, mais par exemple, pour la vaisselle, moi, je me rappelle toujours qu'avec ma maman, quand je faisais la vaisselle à froid, elle dit, mais on ne fait pas la vaisselle à froid, il faut faire du chaud, comme ça, ça dégraisse. Et... non, mais moi, à un moment donné, sur la vaisselle, j'utilise de l'eau, je mets les choses dedans, c'est nettoyé. Donc, elle voudrait que ça se passe d'une certaine manière, mais elle ne me le dit pas. Je ne le sais pas et je fais à ma manière, ça ne lui plaît pas. C'est la même chose dans toutes les relations humaines, il faut expliquer exactement ce qu'on voudrait. Sans donner des ordres, hein, mais bon, voilà quoi. Choisir le bon moment pour discuter aussi. Hein, ne pas discuter, vouloir avoir une discussion existentielle quand la personne rentre avec 4 sacs de courses, un sac à dos, il fait chaud comme maintenant, il fait 25 degrés, il suit partout, il a 4 sacs à dos, il vient de rentrer du travail après avoir fait la pause 6, 12, 2, 10 ou je sais pas quoi, et il n'est même pas encore déposé ses affaires, que oui, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier, parce que franchement, je n'étais pas d'accord. Il va s'énerver, c'est sûr, parce que ouais, c'est désagréable. Donc, choisir le bon moment pour discuter. Le moment où la personne est détendue, où la personne est à la tête à ça, où c'est les bonnes circonstances, c'est important aussi. Parler, exprimer ses besoins, ses sentiments. Ne pas laisser s'accumuler les frustrations. Il ne faut pas vouloir parler après, que, après des mois, après un an que tu m'avais dit ça, le garder dans son cœur et puis un jour le ressortir. Parce que vous savez qu'une réalité qui a pris trop de temps n'existe plus ou n'est plus réelle. En Belgique, on a institué ce qu'on appelle la justice rapide, la procédure accélérée en droit pénal, pour juger rapidement les gens qui commettent des infractions. Donc vous allez voler dans la maison d'à côté. En Belgique, vous savez bien que pour être jugé, il faut à peu près 2 ans, parfois... vous commettez un fait en mars 2011, on vous juge en 2013, en 2014. Mais bon, si j'ai volé en 2011, en 2014, j'ai peut-être complètement changé, j'ai pensé à autre chose, j'ai oublié, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Enfin bon, voilà quoi. Donc en d'autres termes, quand on laisse passer trop de temps, la réalité n'est plus la même. Un être humain qui a vieilli de 2 ans n'est plus le même. Un être humain qui a passé du temps, en quelques jours, on peut changer d'une manière radicale, vous savez. Hein, un petit événement peut faire de nous des êtres complètement différents. Et donc, s'il s'agit toujours de rappeler à quelqu'un quelque chose qu'il a fait il y a 5 ans, alors qu'il n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là, bien évidemment, ça va faire du mal. Et donc, il faut exprimer les choses au moment, quand ça ne va pas, tout en étant capable aussi de passer au-dessus des frustrations. Puisque les frustrations font partie de la vie. Et donc on ne peut pas non plus pointer chacune des frustrations, sinon on passe sa vie à ça. Et donc c'est en même temps d'une part se dire, je dois exprimer ce qu'il y a dans mon cœur, mais en même temps de me dire, bon, parfois ça peut ne pas aller que je ne dise rien aussi. Parce que si lundi je dis pour le dentifrice, mardi pour le sac poubelle, mercredi pour ça, mercredi, jeudi pour... ça peut devenir lourd pour une personne. C'est comme un adolescent. Comme un adolescent, quelqu'un dans la période de l'adolescence, parfois un jeune garçon adolescent, il ne fait que des bêtises toute la journée, enfin il ne fait que des trucs énervants, quoi. Donc il va vous laisser, enfin, j'ai même pas de mots pour expliquer, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, si vous venez pour chaque truc lui faire une remarque, il va devenir fou. Même si c'est vrai, hein, vous n'exagérez pas. Mais c'est juste que ça peut devenir trop lourd à un moment donné. Donc c'est une sagesse quelque part. C'est une sagesse de se dire, bon ben voilà, il y a des choses que je peux laisser passer parce que je sais bien que si je ne laisse rien passer, voilà, ça peut devenir, comme on dit, la tolérance zéro à un moment donné. Voilà, c'est une sagesse à avoir. Hein. Ce n'est pas des principes écrits dans des livres. C'est dans la vie de tous les jours et dans la prière du matin de se dire, Seigneur, aide-moi aussi à faire la différence entre ce que je peux... Comme disait une prière que vous connaissez certainement, Seigneur, donne-moi la force de changer les choses que je dois changer, le courage d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est une prière écrite, mais qui a toute sa sagesse. Hein. Ensuite, écouter l'autre. Ben oui, il faut écouter ce que l'autre dit. Et alors, le problème en général, c'est que nous sommes incapables, très souvent, parce que nous sommes déformés, d'écouter quelqu'un dans ce qu'il a dit. Ça, c'est un problème. C'est que c'est toujours ce que tu dis avec mon interprétation. Et donc, il faut arriver à sortir de son sentiment, de son émotion, pour écouter objectivement ce que quelqu'un a dit. Parce que si on ne le fait pas, on est toujours dans une relation fausse. C'est-à-dire que j'imagine, je crée une autre personne, mais je ne la connais pas vraiment. Donc, il faut écouter l'autre. Et ensuite, il faut donner des marques d'attention et d'affection. On en a parlé longuement. On peut aller à la suite. Voilà. On va parler sur le coup de l'émotion. Voilà, c'est tout. La suivante, je pense que c'est. Attention à nos paroles aussi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Quiconque l'aime mangera les fruits. Les mauvaises paroles peuvent détruire des familles, des amitiés, des communautés. Faisons attention à nos paroles. Et ensuite. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Et la communication, c'est ça. C'est aussi être capable d'exprimer l'amour que Dieu a mis en nous, de l'exprimer aux autres. C'est pas seulement communiquer pour communiquer, c'est partager l'amour de Dieu. Et ça, nous devons, nous sommes tous capables de le faire en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous y mettons un peu de sagesse. Voilà. S'il y a des questions ou des remarques ou autre, je peux.
J'avais peut-être une remarque. Je pense qu'on a rencontré des amis qui, pour communiquer, donc ce sont des couples qui, pour communiquer entre eux, utilisent un cahier et qui prennent 10 minutes de temps selon. Une ou deux, trois par semaine.
Malheureusement, voilà, ça demande une discipline. Ça demande une discipline de... Parce que si on vit comme ça, au jour le jour, on dit toujours n'importe quoi. Il faut discipliner.
Ouais. Donc, nous continuerons avec le frère, avec le pasteur Nunzi, au mois de septembre. Alors, nous espérons que vous serez là et que d'autres viendront nous rejoindre. Nous continuerons à travailler sur les relations, le couple, personnes seules et d'autres thèmes qui seront développés pour les enfants, l'éducation des enfants. Même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer dans tout ce domaine-là. Voilà, alors merci en tout cas pour cette soirée. Est-ce qu'il y a d'autres? Comment? Il y a des livres, hein? Il y a des livres. Donc des livres qui ont été achetés il n'y a pas longtemps ici. L'église on a acheté quelques-uns. Mais il y a aussi 4 livres qui sont proposés par le pasteur Nunzi. Donc regardez-les. Voyez si vous voulez quelque chose. Si vous voulez quelque chose, soit vous pouvez l'acheter si c'est d'ici. Ou si on peut commander. Il n'y a aucun problème. Donc ne partez pas sans aller voir à la table de littérature. Je pense que ça vaut la peine. Voilà. Et on va terminer par la prière. En tout cas, merci. Hein, c'était vraiment particulier. On se met debout si vous voulez. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, tu nous as vraiment instruits. C'est vraiment, vraiment bon de recevoir des enseignements qui peuvent nous aider à réussir. Des meilleures communications. De devenir de meilleurs communicateurs. Toutes les fois où nous avons peut-être raté dans certaines expériences, nous pouvons réussir, nous pouvons ajuster, nous pouvons vraiment être beaucoup plus compétents. Merci Seigneur de nous aider à mieux communiquer avec nos conjoints, avec nos enfants, avec les autres, au travail, que ce soit dans notre famille surtout, en particulier dans toute la relation de la famille, à l'école, que ce soit partout, hein, même à l'église, et entre frères et sœurs, c'est très important. Te prions vraiment de nous aider, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes des pistes pour devenir meilleur et exceller dans ce domaine. Nous te remercions, Seigneur. Raccompagne chacun de nous, Seigneur, dans nos demeures. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, nous voulons aller dans ce chemin de bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Nous voulons te bénir. Nous voulons bénir les autres. Nous voulons nous bénir nous-mêmes. Merci Seigneur, tu veux nous appeler et nous apprendre à semer de bonnes choses par nos paroles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne chacun de vos demeures. Merci en tout cas, pasteur.